Fun for you avec Partenamut sur Fun Radio.
Et salut tout le monde, je m'appelle Simon, je suis très content de vous retrouver comme chaque semaine dans le podcast Fun for you. On est déjà au 12e épisode de ce podcast. Podcast dédié à la santé, au bien-être et à la vie intime que vous retrouvez chaque semaine sur funradio.be, sur l'application Fun Radio BE et sur toutes les plateformes de podcast. Fun Radio. Et pour m'accompagner aujourd'hui, j'accueille notre psychologue Pénélope qui est avec moi en studio. Salut Pénélope.
Salut Simon.
On va aujourd'hui s'intéresser à la dépression. Finalement, Pénélope, en quelques mots, c'est quoi la dépression?
Alors la dépression, c'est un trouble psychique, un des plus fréquents et des plus invalidants finalement. C'est quelque chose qui revient souvent, même dans le langage commun. Alors on va le définir par quelque chose de l'ordre d'une tristesse persistante, d'une perte d'intérêt, une perte de plaisir, une fatigue qui va être en général assez durable. Et alors des troubles de fonctionnement au niveau global, hein, par exemple des troubles au niveau du sommeil, de la concentration, de la motivation.
Est-ce qu'on a des chiffres par rapport à la dépression en Belgique?
Oui, alors en Belgique, on a les études Cienciano qui évaluent à peu près à 1 Belge sur 10 qui souffre d'un épisode dépressif chaque année. On a donc à peu près 20% de la population qui va vivre un épisode dépressif au cours de sa vie. On voit que les femmes sont en général deux fois plus touchées que les hommes. Et puis, c'est l'une des premières causes d'incapacité de travail de longue durée. En tout cas, en 2023, c'était le cas. J'imagine que ça n'a pas beaucoup changé. Et on sait que le burn-out va représenter à peu près 38% des invalidités qui vont être couvertes au niveau de l'INAMI. Donc c'est vraiment quelque chose qui est un enjeu majeur au niveau de la santé publique et on a vraiment des répercussions qui vont être très importantes au niveau de la santé, au niveau des familles, au niveau du travail, au niveau de la société de manière générale.
Et est-ce que la dépression c'est quelque chose d'assez récent ou c'est quelque chose qui a toujours existé?
Alors je pense que ça a toujours existé mais on n'a pas toujours eu de définition par rapport à la dépression et ça a évolué au cours de l'histoire finalement. Donc déjà à l'Antiquité, on va avoir les premiers mots qui vont être liés à la dépression. Là, on va parler de mélancolie. C'était normalement associé à un excès de bile noire. C'était la théorie des humeurs. Puis, on va avoir une évolution au niveau du Moyen-Âge, de la Renaissance. Là, on va associer la mélancolie à une souffrance spirituelle ou morale. Et puis, parfois, ça va être interprété comme une faiblesse morale ou un châtiment divin. Puis, tu vas avoir une évolution donc au 19e siècle. Là, on va avoir la médicalisation qui va apparaître. Donc, on va avoir les premières définitions de la dépression comme une maladie mentale et donc qui est liée à des facteurs qui vont être des facteurs psychologiques ou biologiques. Et puis, il y a le 20e siècle avec la reconnaissance au niveau psychiatrique. Donc là, on va vraiment avoir le terme dépression qui va s'imposer et on va avoir des distinctions entre différents types de dépression. Donc, on va avoir la dépression majeure, la dysthymie, les dépressions saisonnières, le postpartum. Donc là, on va avoir vraiment une catégorisation en tout cas de la dépression puisqu'il n'existe pas une dépression mais différents types de dépression. Aujourd'hui, c'est vraiment reconnu comme un trouble psychiatrique fréquent, chronique et évidemment potentiellement grave. Donc tu vas avoir des dépressions, par exemple dépression chronique majeure à ce moment-là, on est vraiment dans des conséquences au niveau de ton quotidien qui vont être extrêmement lourdes. Maintenant, il y a plein de traitements qui existent pour traiter la dépression.
Et c'est quoi justement les symptômes de la dépression, Pénélope?
Alors clairement, on a tendance à l'associer uniquement à la tristesse, mais en fait ça va toucher l'ensemble de la personne, à la fois le corps, à la fois l'esprit, les comportements et même les relations. Donc au niveau des symptômes psychologiques que tu vas retrouver, donc t'as quand même cette tristesse qui va en général être intense, persistante, donc ça veut dire que c'est pas t'es triste le matin et puis l'après-midi tout va bien, donc on a vraiment quelque chose qui s'installe. Mmh. Alors il y a tout ce qui est aussi les intérêts ou le plaisir, tout ça va disparaître, on appelle ça l'anhédonie d'ailleurs. Et donc la personne finalement n'a plus d'intérêt pour rien. On peut aussi remarquer un sentiment de vide, quelque chose de l'ordre du désespoir, beaucoup de culpabilité aussi, de la dévalorisation, de l'autodévalorisation même, et puis des difficultés à prendre des décisions, des pensées suicidaires. Alors les pensées suicidaires sont pas nécessairement présentes chez tout le monde, mais c'est quand même quelque chose qu'on va retrouver assez régulièrement dans le cadre de la dépression. Alors, d'autres types de symptômes, c'est tous les symptômes physiques. Donc, on va avoir de la fatigue chronique, des troubles du sommeil avec soit de l'insomnie, soit de l'hypersomnie, des troubles de l'appétit, mais là, ça peut être soit de la perte d'appétit ou une augmentation de l'appétit. Puis, on peut avoir des douleurs aussi qui apparaissent, des maux de tête, des troubles digestifs, et puis le côté un peu ralenti ou agité au niveau psychomoteur. Alors, au niveau de tout ce qui est symptômes cognitifs, donc là, c'est plus tout ce qui va être les processus mentaux. En général, on va rencontrer des difficultés au niveau de la concentration et de la mémoire. On a des ruminations permanentes. Et puis, en général, l'avenir est vu de manière assez pessimiste. Enfin bon, voilà, c'est quand même un tableau qui est assez noir chez les patients dépressifs. Alors, au niveau de tout ce qui est comportemental, tu vas avoir des personnes qui vont avoir tendance à s'isoler au niveau social, qui perdent aussi au niveau de leur efficacité professionnelle, qui vont commencer à se négliger, entre autres au niveau, par exemple, de l'hygiène ou de l'alimentation. Et puis, une réduction au niveau des activités et des loisirs.
Et qu'est-ce que ça entraîne la dépression ?
Alors ça dépend un petit peu de quoi on parle. Donc au niveau de la santé, comme je le disais tout à l'heure, il va y avoir un risque de suicide qui est quand même assez élevé. On va compter 10 à 15% dans les dépressions sévères. On a aussi un risque de chronicisation, désolé.
Si c'est pas évident à dire.
Si c'est pas traité, donc de nouveau, je disais, il y a des traitements qui vont être mis en place. Si tu laisses la dépression s'installer, le risque c'est que ça redevienne maintenant quelque chose qui est présent en permanence ou qui va revenir à certains moments et ça risque de revenir de plus en plus souvent. Donc tout ce qui va être aussi les maladies somatiques qui risquent de s'aggraver. Donc par exemple le diabète, si tu as un changement au niveau de l'alimentation, il y a un risque que le diabète se développe par exemple, ou tout ce qui va être les cardiopathies, donc toutes les maladies au niveau cardiaque. Au niveau de la vie personnelle, forcément, tu risques de mettre en péril tout ce qui va être conjugal, par exemple, donc les ruptures qui peuvent arriver, l'isolement aussi affectif et amical, donc tu romps aussi parfois des relations qui peuvent être vraiment soutenantes. Je pense qu'avoir des amis dans des moments comme ça, ça peut être
important.
Voilà, c'est un vrai soutien, sauf que comme tu es en difficulté, tu vas avoir tendance à te couper de ces gens-là. Et donc finalement, tu t'enfermes un peu dans ton cercle vicieux. Et donc aussi, tout ce qui est la perte de confiance en soi qui s'installe et donc qui va avoir un impact aussi dans toutes les parties de ta vie professionnelle, par exemple. Et donc, au niveau de la vie professionnelle, en général, on va constater de l'absentéisme, non seulement qui va augmenter soit en fréquence, mais aussi en longueur. Et donc, forcément, un risque de perte d'emploi.
Ça rejoint un petit peu le burn-out dont on a déjà parlé dans une autre émission, finalement.
Mais c'est vrai que le burn-out, pour moi, c'est quand même un type de dépression particulier, parce que c'est vrai qu'en général on l'associe au travail, mais oui, les symptômes restent quand même assez similaires et moi j'aurais tendance à mettre le burn-out dans la dépression. Voilà, je crois que j'en avais discuté dans cette émission-là, mais la différence, je pense que si tu as un burn-out et que tu sors du burn-out, il y a moins de risques de chronicité qu'au niveau de la dépression. Et donc automatiquement tout ce qui va être professionnel finalement va être freiné et le risque c'est de te retrouver un peu au point mort et de ne plus évoluer au niveau professionnel, ce qui n'arrange pas l'image que tu as de toi. Et donc,
mais tu parlais tout à l'heure d'un cercle vicieux, finalement, c'est un peu
voilà,
la même chose.
Exactement. Hein. Et comme tu vas de plus en plus t'isoler pour éviter ça, forcément, ça va aggraver de plus en plus. Et donc, comme je le disais aussi sur la société, j'en parlais tout à l'heure, mais finalement, c'est une grosse part des incapacités qu'on va avoir en Belgique, capacité de travail, et puis le coût économique qui va être très important, puisque les soins médicaux sont élevés, en tout cas dans le temps, donc tu te casses une jambe, tu dois te faire opérer, tu te fais opérer une fois, a priori, sauf si t'as vraiment eu un mauvais médecin, tu vas pas te faire opérer 15 fois. C'est vrai que la dépression, ça peut mettre des années pour se soigner, donc ça veut dire mettre en place des médecins, des psychologues, des assistants sociaux, des infirmiers et des structures qui vont avec des hospitalisations éventuellement, dans les cas quand même les plus graves. Et puis, tout l'impact qu'on va avoir au niveau, comme je le disais, au niveau social, familial, parce qu'il ne faut pas croire que toi, tu es déprimé tout seul dans ton coin, tout ce qui est autour, ça prend aussi quand même. Donc, voilà. Et donc, l'idée, c'est quand même d'essayer de reconnaître les prémices, finalement, de la dépression pour mettre en place des soins le plus rapidement possible et éviter de s'enfoncer.
Justement, entrer dans ce cercle vicieux.
Exactement. Et donc, il y a deux alternatives. Soit tu vas être... Tu vas regarder l'autre et te dire « Oula, il y a un truc qui va pas », soit tu te regardes toi-même et tu dis « Oula, il y a un truc qui va pas ». Mais donc dans les deux cas, de pouvoir être vigilant à certains symptômes. Donc chez nous par exemple, c'est vraiment le fait qu'on serait dans une tristesse qui s'installe, qui persiste, qui va être peut-être un peu plus longue que ce qui pourrait arriver dans certaines situations. Si t'as eu un événement grave, c'est peut-être un peu différent, mais si la tristesse s'installe comme ça et que ça dure plus de 2, 3, 4 semaines, ça vaut quand même la peine de se poser des questions. Donc la perte de plaisir, de nouveau, si les activités que t'aimes bien faire, je sais pas, imaginons que t'es fan de Pilates, je sais pas pourquoi Pilates, c'est la première chose qui m'est venue, et que voilà, tu rates jamais un cours de Pilates, et puis tout d'un coup, tu finis par aller de moins en moins en cours, voire plus
aller
du tout.
Oui, ça devient une corvée finalement.
Voilà, bah alors ça c'est quand même des signes qui sont un peu interpellants, il faut quand même y faire attention, surtout si ça dure, parce que parfois on est juste fatigué, et oui. Que, voilà, on n'a pas envie de se fatiguer encore un peu plus au Pilates, mais si ça reste, si ça perdure, attention. La fatigue aussi qui serait trop présente alors que on a des bonnes nuits de sommeil, c'est sûr qu'on fait la fiesta toute la nuit, on est fatigué le lendemain, c'est normal. Et puis les pensées négatives qu'on va avoir qui reviennent, je ne sers à rien, je sais pas ce que je fous là, enfin bon, tu vois, ce genre de pensée quand même, ça reste interpellant. Et évidemment, s'il y a des idées de type suicidaire, des envies de mort, là je pense que c'est aussi des moments où il est important de s'alerter et de faire quelque chose. Et puis si tu es plutôt en observation de quelqu'un, tout ce qui va être retrait social, donc de nouveau t'as un pote, il est super social, il a des voilà, en général c'est le premier à sortir, et puis tout d'un coup tu le vois de moins en moins, il reste chez lui, il s'isole, bah ça vaut peut-être la peine d'aller toi voir un petit peu ce qui se passe. S'il y a des changements d'humeur qui sont plus présents, ou que tu vois qu'au niveau de, justement, de l'efficacité professionnelle, donc des changements en tout cas qui seraient un peu soudains chez la personne, ou qui s'installent progressivement mais qui sont vraiment pas dans les habitudes d'une personne que tu connais depuis un certain temps, ça vaut la peine quand même d'être attentif, au même titre que par exemple son apparence. Si tout d'un coup, je sais pas, le pote qui est toujours super propre, il a les cheveux gras en permanence, faut peut-être se demander pourquoi. Alors attention quand même à pas mélanger le fait d'être simplement triste de manière normale.
Oui, parce qu'il y a des événements qui font malheureusement que la vie est un peu plus triste par moment. Hein.
Tout à fait. De temps en temps, quand on regarde les nouvelles, on en vient
oui,
un
oui,
peu
par
de pleurer,
exemple.
Voilà. Donc si tu as un événement particulier qui a une réaction, ben on n'est pas nécessairement dans la dépression. Attention si ça dure, parce que ça peut quand même se basculer là-dedans. Le fait d'avoir un deuil, ben, là aussi, finalement, la réaction de tristesse, elle est relativement normale, on est d'accord.
Et plus ou moins longue selon les personnes aussi.
Plus ou moins longue. Mais c'est vrai que normalement, progressivement, les tristesses intenses, on s'en sait quand même s'atténuer. Et donc, si ça persiste, ben, il faut aussi peut-être être vigilant. Et puis, tout ce qui est burn-out, et donc là où on est vraiment quelque chose qui est lié au travail, on sait que ça, c'est normalement juste au travail. Si ça commence à s'étaler sur d'autres choses, à voir si on n'est pas en train de virer dans une dépression qui serait plus sévère.
Et est-ce qu'il existe différents types de dépression ?
Oui, alors tu peux avoir par exemple le trouble dépressif majeur. Donc ça, c'est quand même la forme la plus courante qu'on va avoir de la dépression. Donc là, on est vraiment dans un sentiment persistant et intense de tristesse, un manque d'intérêt général, etc. Tu as la dépression de type psychotique, qui serait plutôt un sous-type de la dépression du trouble dépressif majeur, avec une certaine forme de psychose qui va accompagner la dépression. Psychose, tu te souviens ce que c'est ?
Bien sûr, Pénélope. Ah, on a fait plein d'émissions là-dessus, elles sont disponibles en podcast sur le site.
Ok, ça va. Mais donc là, on pourrait avoir des hallucinations, par exemple, ou des délires qui peuvent être associés. On va avoir les dépressions aussi situationnelles, donc plutôt dans tout ce qui est troubles d'adaptation avec une humeur dépressive. Donc en général, on va avoir une situation particulière qui va, par exemple, un divorce, qui va générer en tout cas quelque chose de l'ordre du changement de vie de manière importante. Et donc là, en général, on a vraiment le fait que la dépression est liée à un facteur spécifique de stress. Et donc, normalement, si la personne s'adapte à la nouvelle situation, la dépression va disparaître. Puis on a dans le cas du trouble bipolaire, donc là aussi je pense qu'on en avait déjà discuté.
Ouais, bien sûr.
Mais donc cette alternance qu'on va avoir avec des phases qui sont plutôt des phases hautes, qu'on dit phases hautes, hein, où la personne est plutôt en manie ou en hypomanie, et puis des phases basses où là on est vraiment dans un épisode qui va être un épisode dépressif qui peut être très intense. Je crois que j'avais discuté des différents types de bipolarité, mais donc il y a cet aspect-là qui va être vraiment dans un épisode qui va être plus ou moins long et qui va à un moment switcher vers un autre état, qui est donc un état plutôt que d'exaltation.
Ok.
Et puis on a aussi la dépression postpartum, donc ça c'est facile, c'est
après,
juste après avoir un bébé.
Une naissance.
Voilà, comme quoi après on est désespéré après avoir eu des enfants.
Bon, c'est tu parles vrai. En connaissance de cause.
Ils sont fantastiques, on les adore. Mais donc, après l'accouchement, on peut vraiment avoir un choc au niveau de plutôt hormonal. Je pense que c'est lié aux aspects hormonaux. Et donc là, avoir vraiment quelque chose qui va se déclarer de manière beaucoup plus intense. Et donc avoir une mère qui va être incapable éventuellement de prendre soin de son enfant et évidemment d'elle-même. Alors on a aussi tout ce qui est les troubles affectifs saisonniers, donc la dépression saisonnière, c'est le moment. Allons-y.
On est un peu dans la période, là, le changement d'heure, il fait noir de plus en plus tôt, il n'y a plus une feuille sur les arbres.
D'ailleurs, je vais rentrer chez moi.
Vas-y.
Et donc oui, clairement, on sait qu'au moment des mois d'hiver, on va avoir ce côté un peu plus déprimé. Et d'ailleurs, il y a des chouettes thérapies, de luminothérapie.
Donc, Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Ça, je me suis toujours posé la question.
Je pense que ça fonctionne vraiment. Donc,
c'est les lampes bleues, ce genre de choses ?
Mais c'est des lumières spécifiques qui sont pensées pour ça. Et je pense que tu peux même en avoir sur tes lunettes. Comme ça, tu peux te balader avec la lumière du soleil toute la journée, c'est tellement fantastique dans cette nuit noire et sombre qu'est la Belgique. Donc voilà, ça on va dire, alors il peut y en avoir encore d'autres types, mais je vais dire que c'est les principales qu'on va retrouver. Bon, même si les symptômes que tu vas retrouver quand même sont toujours un petit peu similaires, mais elles vont être associées à des périodes différentes et puis du coup le traitement pourrait être différent.
Et justement, tu parles des traitements. Est-ce que quand on souffre de dépression, les traitements, c'est quelque chose qui est vraiment important ?
Bah oui, parce que bon, c'est vrai que si on n'avait pas de traitement, on pourrait considérer que la durée d'un épisode dépressif, il se situerait entre 4 et 8 mois. Okay. Mais on constate quand même que dans à peu près 20% des cas, les épisodes dépressifs vont avoir une évolution chronique. Et donc, avec des fréquences de rechute aussi qui sont très importantes, hein, on voit qu'en gros, on va avoir 15 à 25% de rechute dans l'année, 50 dans les deux ans et de 50 à 85% au cours de toute une vie. Et donc, c'est vrai que avoir un traitement et vraiment soigner de manière adéquate la dépression la première fois qu'elle apparaît, c'est vraiment quelque chose d'important. Quand on a donc un état dépressif, c'est vrai que si on prend un traitement, normalement, ça va aller vers une guérison, je vais dire. Mais si le traitement, donc là je parle vraiment de traitement médicamenteux, hein, on est d'accord, si ça n'est pas vraiment, en tout cas que l'évolution n'est pas positive, il y a quand même des questions à se poser sur la médication qui est peut-être pas adaptée. Alors faut savoir quand même qu'en psychiatrie, c'est beaucoup de laisser-erreur. Hein. Il y a certains médicaments, parce que t'as tout un tas d'antidépresseurs par exemple, et il y en a certains qui vont mieux marcher avec certaines personnes et d'autres qui vont moins bien marcher.
C'est un peu au cas par cas, on va dire.
Exactement. Et donc, soit on va avoir un traitement qui est pas très adapté, ou alors on est vraiment face à des états dépressifs qui sont extrêmement graves ou plus particuliers. Ce qui est quand même très important à dire, parce que c'est vrai qu'on pense toujours aux médicaments, hein, on met un antidépresseur et puis basta, on n'en parle plus. C'est quand même très important d'avoir quelque chose au niveau thérapeutique. La relation vraiment thérapeutique, elle est très importante parce que c'est un espace vraiment de discussion et ça permet d'aller traiter quand même un petit peu le fond de la dépression et de ne pas juste mettre un médicament avec le risque que si on arrête un moment le médicament, bah finalement tout ce qui avait amené à la dépression ressorte et réapparaisse. Donc l'espace thérapeutique, c'est vraiment un espace où le patient va pouvoir exprimer vraiment sa détresse, qu'il est quelqu'un qui soit dans une écoute, qu'on dit écoute active hein, chez les psychologues, et quelqu'un qui va être dans une position qui va être plus neutre. Parce que c'est vrai que tu peux parler à ton pote, à ta mère, à ton frère, mais eux ils sont quand même investis de l'aspect émotionnel,
ils
te voient en souffrance, donc ça va être quand même plus compliqué pour eux de venir de manière adéquate. Ils vont avoir tendance peut-être à ne pas dire certaines choses pour pas te faire plus de peine ou à éviter certains sujets.
Vaut mieux aller dans un terrain neutre finalement.
Voilà, et puis quelqu'un qui est finalement formé, parce que prendre ses parents comme psychologue ou son compagnon ou sa compagne ou tout ce que tu veux,
hein, finalement, ou ChatGPT finalement, c'est peut-être pas non plus la solution.
C'est
hein.
pas l'idéal, effectivement. Et donc vraiment la relation thérapeutique, c'est très important. Donc le médicament, comme je le disais tout à l'heure, phare qu'on va donner dans le cadre de la dépression, bah c'est les antidépresseurs qui donc sont intégrés avec cette démarche thérapeutique à côté. Donc en général, on va avoir souvent un psychologue qui va voir le patient en moyenne toutes les semaines, tous les 15 jours, et un médecin qui est là dans un rythme un peu plus lent, tous les mois, voire tous les deux mois. Et en fonction de la situation, si on est plus en crise, si on est plus loin dans le soin et donc la thérapie, la dépression va mieux, à ce moment-là, on peut réduire le nombre de séances. Mais en début de traitement, c'est quand même important qu'il y ait quelque chose qui soit assez serré pour pas que le patient soit un peu laissé à l'abandon, je vais dire. Alors, autre chose qui est très important aussi à dire, quand il y a la mise en place d'un antidépresseur, c'est que c'est des traitements qui prennent quand même un certain temps à agir. Donc, c'est pas parce qu'on prend un antidépresseur le matin que pouf, l'après-midi, tout va mieux. Alors d'abord, ça se matérialise pas comme ça, parce que ça va apporter un mieux, mais c'est pas pour ça qu'on est dans le bonheur intégral. Et il faut en général 3 à 5 semaines pour que les effets des antidépresseurs commencent à apparaître. Et que aussi les effets secondaires possibles apparaissent. Donc il faut quand même un certain temps pour que ça se mette en place. Au niveau des psychothérapies, donc là c'est vraiment le côté on va voir en consultation. Là on peut avoir différentes approches. Donc il peut y avoir la thérapie qui est vraiment la thérapie individuelle où le patient va vraiment parler de sa problématique. Mais comme je l'ai dit un peu plus tôt, il y a tout ce que ça peut impacter, donc la famille, le couple, et donc on peut envisager des thérapies de couple par exemple, surtout si la dépression va être liée à tout ce qui va être conflits conjugaux. Ce qui peut arriver, je sais pas, il aurait pu avoir une tromperie du conjoint et donc une dépression qui se dégage autour de ça. Donc aller traiter cette question-là, c'est quand même importante. Ça peut être aussi des thérapies au niveau familial, si là, pareil, la dépression est liée à cette dimension. Et puis, il y a différents types de psychothérapies qui existent, comme les thérapies d'inspiration plutôt psychanalytique, la psychanalyse, donc la thérapie systémique. Il y a les TCC aussi qui peuvent aider. Et puis, bon, je parlais tout à l'heure de la dépression saisonnière. Ben, on pourrait être dans la luminothérapie, par exemple. Et puis, si on arrive vraiment à des situations extrêmement graves, là, on peut aller jusqu'à une hospitalisation où le cadre est vraiment beaucoup plus serré, particulièrement s'il y a des risques suicidaires ou si on est face à, je parlais tout à l'heure des dépressions avec des éléments plus psychotiques et donc plus délirants. Et donc là, avoir quelque chose aussi où on met en place des traitements parce que le patient n'est peut-être plus vraiment dans la réalité. Hein. La psychose, c'est finalement un peu ce côté où on sort de cette réalité. Et puis, s'il y a des comorbidités aussi. Hein. Comorbidités, c'est des choses qui sont associées. Donc, si on a un patient qui va avoir un alcoolisme qui se développe de manière très importante ou de la toxicomanie, on sait que pour se sentir moins mal, ils vont souvent utiliser d'autres produits pour pouvoir se sentir mieux. Et donc, l'alcool, des médicaments aussi. Et donc, ça, c'est des choses qui peuvent nécessiter du coup une prise en charge pour un sevrage et pour éventuellement après traiter alors la dépression.
Avant de se quitter, comme on a l'habitude de le faire, comment on pourrait conclure finalement ce sujet sur la dépression ?
Alors, je sais que le mot est un peu utilisé un peu n'importe comment à certains moments. Je me sens en dépression alors qu'en fait on est peut-être juste un peu triste. C'est vraiment la dépression, c'est un trouble psychiatrique qui est vraiment fréquent et qui est quand même assez grave. Donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre au sérieux. Mais en même temps, il y a quand même des traitements qui sont très efficaces aujourd'hui si en tout cas on les met en place. Et donc à ne pas confondre aussi avec juste une baisse de morale, hein, je le disais, parce que toutes les conséquences que ça peut avoir peuvent être extrêmement lourdes. Aussi bien au niveau de la santé, je parlais là de l'alcoolisme, ça va avoir des conséquences au niveau santé, au niveau social, au niveau professionnel. Et donc, il ne faut pas hésiter quand on sent ces éléments-là qui apparaissent à se faire prendre en charge, à consulter, à appeler éventuellement des structures qui pourraient guider ou en tout cas répondre à la question « Est-ce que je suis en dépression ?» Et si c'est le cas, qu'est-ce qu'on fait ?
Eh bien, merci beaucoup Pénélope pour ce chouette échange. On te retrouve très très vite ici sur Fun Radio pour un tout nouveau sujet.
Évidemment, et à très bientôt.
Retrouvez Fun for You avec Partenamut
en podcast sur le site et l'appli Fun Radio BE.